Les Canuts, deuxième partie, chapitre 13. Quelle jarret cette jeunesse! Monsieur Palia s'arrêtait, tous les 20 pas, pour s'éponger le front.
Hé, mon cher, c'est le bel âge!
Fit M. Argentiol de sa voix mordante.
Toutes les illusions, aucun souci.
Les soucis leur viendront assez tôt, observa M. Jacquemin.
Et pas de ventre à traîner,
poursuivit M. Argentiol avec un coup d'œil à l'adresse de M. Palia.
Je vous conseille de vous plaindre, vous qui êtes sec comme un coucou.
Oh, c'est pour vous que je parle!
« Palia !» ricana le méridional. « Ne vous en offensez pas !»
Loin devant eux, à travers les bouquets de buis et de genévriers, sur la haute balme du chemin semée de gentianes et de bruyères, s'apercevait le large chapeau de paille et la robe mauve de Mademoiselle Marthe, à côté de la grande silhouette de Johannes Clairin, en costume de cheval, veston de drap gris et culotte peau de taupe, botté et éperonné, cravache à la main. La taille serrée par une ceinture de cuir, les reins cambrés, le pas ferme, la jeune fille marchait le nez au vent et, à chaque mouvement de terrain, du bout de son ombrelle, désignait à son fiancé un nouveau point du splendide panorama qui se déroulait à leurs pieds. La croupe allongée du Montoux s'abaissant en pente douce jusqu'à la Saône. La vallée de Polémieux, les bois de Saint-Romain, le Mont Cindre avec son ermitage, Saint-Cyr et Saint-Didier. Les plaines ensoleillées du Bas-Lyonnais, bornées d'un côté par le Rhône, de l'autre par les montagnes de Mornan et d'Iseron. Dans le lointain, les lignes bleues des Alpes et des Cévennes. Plus près, Lyon, dans une brume grise. D'un œil attendri, M. Jacquemin regardait ses deux enfants, côte à côte, escaladant les pentes, descendant les ravins, elle toute rose et toute mignonne, lui vigoureux, le visage sanguin, la moustache fièrement retroussée. Il les admirait, devinait à leur sourire les paroles tendres qu'ils échangeaient, les trouvait faits l'un pour l'autre, jouissait de leur bonheur et les confondait déjà dans une même affection. À l'aise dans son vêtement de toile blanche, coiffé d'un chapeau de grosse paille, une canne ferrée dans la main, M. Jacquemin descendait d'un pas alerte le sentier en zigzag, raide et caillouteux, qui serpentait au flanc du Mont Verdun, sous les grands bois de la Glande. C'était une radieuse après-midi de septembre. Dans l'air vibrant, un clair soleil dorait les pentes boisées déjà revêtues des teintes d'automne, s'accrochait aux anfractuosités des rochers, traçait capricieusement dans les pelouses de longues coulées jaunes, se jouait avec des notes d'argent, sous les bouquets de charmilles et de chênes, parmi les lierres et les pervenches. Dans les combes fraîches, où s'étendaient les regains fauchés, les ombres s'estompaient de vapeurs bleues. Sur le versant opposé, les grives, rassasiées de raisins mûrs, s'envolaient, en chantant, des vignes aux pampres rougies. Ça et là, comme en vedette, au tournant du chemin, un tremble, au fût gris, dressait sa chevelure frissonnante. Plus loin, debout sur un monticule, un petit berger gardait des vaches, à demi cachées dans les hautes herbes.
« Palia, reprit Argentiol, voyez-moi donc cet ami Jacquemin. Quelle figure d'homme heureux! N'est-ce pas à vous faire regretter de n'avoir pas d'enfant ?»
M. Jacquemin sourit avec un hochement de tête. Oui, sans doute, il était heureux. le mariage de sa fille serait une consolation dans le souci constant des affaires. Depuis le départ de Pellegrin, il avait mis provisoirement au service un des employés de la vente, qu'il n'avait pas remplacé, et dont il faisait le travail. Il espérait que les préliminaires du mariage se termineraient promptement et que tout serait conclu avant l'hiver. Devenant son associé, Johannes Clairin prendrait la place de Pellegrin. L'un aurait la direction du service, l'autre celle de la vente. Ainsi, tout marcherait à souhait, les bénéfices augmenteraient. Cette perspective de prospérité future lui donnait la patience de supporter les ennuis présents. Ils avaient quitté le sentier. Maintenant, ils suivaient la grande route et pressaient le pas. Il fallait être à bel ombrage pour le dîner de 6 heures et ne pas faire attendre ces dames. Ils approchaient d'une vaste construction cubique, très ancienne, ayant l'apparence d'une maison forte. Une auberge y était installée et, sur la façade, étaient représentées des chaises de poste, lancées au galop, des voitures de toutes sortes, des courriers et des voyageurs.
« Qu'est-ce que c'est que cette bicoque ?»«
L'auberge de la préférence, » répondit M. Jacquemin. « Anciennement château de Montfort. »«
Ah ! Sans doute un ancien fief de cette famille des Tolosans de Montfort, dont un des membres fut le dernier prévôt des marchands de Lyon ?»«
Précisément. » Le chef de cette famille vint à Lyon en sabots, et à sa mort, c'était un des plus riches négociants de la ville.
« Il y a des gens qui ont de la chance, »
fit M. Argentiol, maussade.
« Et je me demande comment ils font. Moi, j'ai commencé avec mon patrimoine, et aujourd'hui je ne suis guère plus avancé qu'il y a 20 ans.
« Eh, mon cher, » reprit M. Jacquemin, « vous avez été victime de malheurs exceptionnels. Aussi exceptionnel que la fortune prodigieuse de cet homme parti en sabot de son village.
En somme, conclut Monsieur Pallia de sa voix molle, un peu d'affaires, beaucoup de santé, il ne faut pas être trop difficile.
La route s'allongeait, ombragée de grands arbres. Du bout de sa canne, Monsieur Jacquemin désignait à ses amis les villages, les châteaux. À gauche, dans ce massif de verdure, c'était la belle résidence de Machy. Dans le vallon, à droite, le village de Lisieux, avec ses vieilles tours féodales et son clocher carré. Au long des coteaux couverts de riches vignobles, les hameaux de la Clostre, du Bourg, de Plambeau, et plus loin, le bois Dieu. Le bois qu'il traversait à présent était celui d'Ars, redouté au siècle passé, et qui avait été le théâtre de nombreux crimes, demeurés impunis. Bientôt ils s'engagèrent dans le chemin vicinal, bordé de grands peupliers, qui faisait comme une avenue à bel ombrage. S'étant arrêtés pour les attendre, Marthe et son fiancé s'occupaient à dévaliser un buisson d'épines vinettes couvert de ses baies rouges.
« J'aime ça, » disait-elle en picorant. « C'est acide. »
« Moi, non, ça m'agace les dents. »«
C'est bien ce qu'il y a de drôle, » reprit-elle d'un air gamin. « Tenez, alors, je vais vous décorer. »
Comme elle fixait une petite branche d'épines vinettes à la boutonnière de Johannes,
« Quelle scène touchante !» s'écria M. Argentiol. « Johannes, soyez bon chevalier !»«
J'en fais le serment, » dit gaiement le jeune homme.
« L'ordre des amoureux !» soupira M. Pallia, qui s'épongeait toujours.
« Mon cher Pallia, » reprit M. Argentiol, « nous avons rendu nos galants, nous autres. »
Ils arrivaient à l'entrée de la propriété. Marthe poussa la grille et passa la première, faisant craquer sous ses talons le gravier fin de l'allée qui contournait la pelouse ovale. Les entendant rentrer, Madame Jacquemin sortit du salon au rez-de-chaussée, avec Madame Argentiol et Madame Pallia, et toutes trois s'avançaient à leur rencontre. Eh bien, cette promenade, s'était-il amusé? Marthe n'était pas trop lasse? Eux, chapeau bas, s'excusèrent d'être en retard. Mais on leur pardonna. L'essentiel était qu'ils ne fussent pas trop fatigués. Au reste, le dîner ne pouvait attendre, on allait tout de suite se mettre à table. Vite, Marthe monta s'habiller et redescendit au salon en robe de mousseline blanche, ornée au bas d'un bouillon avec un ruban rose. Madame était servie. On passa à la salle à manger, où le potage fumait au milieu de l'argenterie et des cristaux qui scintillaient dans un rayon de soleil couchant. Le dîner fut plein d'expansion et de gaieté, comme entre bons amis qui passent dans l'intimité quelques jours de vacances à la campagne. On regretta l'absence de monsieur et madame Clairin, retenus à Lyon par une invitation à dîner. Puis, la conversation, interrompue par les boutades de monsieur Argentiol et les mots aimables de madame Palia, roula sur l'excursion de la journée qui avait aiguisé l'appétit des promeneurs, les parties de chasse projetées, les réunions préparées en l'honneur des amoureux. Placés l'un à côté de l'autre, Marthe et Johannes causaient entre eux, à demi-voix, exprimant d'un coup d'œil et d'un sourire ce qu'ils ne se disaient pas, semblant étrangers à ce qui se passait autour d'eux. « C'est bien mal, mademoiselle, fit M. Argentiol, de faire ainsi bande à part. « Mon ami, s'écria sa femme, tu es cruel de les déranger. Crois-tu que vos histoires de chasse les intéressent beaucoup ?»«
Oh !» dit Madame Palia, « ce serait avoir d'eux une bien mauvaise opinion.
Voyez-vous, Marthe, laissez dire ces messieurs. Vous êtes au meilleur moment de la vie, ma chère petite. Profitez-en. »
« Tiens, tiens !» reprit Monsieur Argentiol. « Et la lune de miel, madame, pourquoi la comptez-vous donc ?»«
Je maintiens ce que j'ai dit, » ajouta madame Palia, avec son beau sourire.
« Palia, mon ami, » s'écria le méridional, montrant ses dents blanches. « Cela demande une explication. »«
Mon Dieu, c'est bien simple, » répondit le gros fabricant. « Les femmes ont beaucoup d'imagination. Elles ne sont jamais heureuses que par le souvenir. » ou l'espérance.
C'est ce qui fait qu'il est si difficile de les fixer.
Ces dames, scandalisées, protestèrent. Comment M. Palia osait-il dire de pareilles choses?
Mais c'était monstrueux!
Cependant, M. Argentiol et M. Jacquemin appuyaient les conclusions de leur ami. On était au dessert. On riait beaucoup. Les têtes était échauffé par le Bourgogne. Au pétillement du champagne, les langues allaient plus agiles, les voix sonnaient plus haut. La discussion pour rire, à trois contre trois, prenait des proportions inquiétantes. Marthe et Johannes s'amusaient énormément. Deux fois déjà, ne comprenant rien à cette comédie, la femme de chambre s'était présentée pour demander où il fallait servir le café et s'était retirée pour ne pas interrompre. À la fin, se levant avec un geste dramatique, madame Jacquemin sortit précipitamment.
« Viens, ma fille, viens » s'écria-t-elle. « Il y a de quoi rougir !»
Et changeant de ton, elle ajouta. « Viens servir le café dans le jardin. » Aussitôt, on quitta la salle à manger, au milieu de grands éclats de rire, et on sortit dans le jardin par la porte-fenêtre. Le café fut servi sur un guéridon. Marthe présentait les tasses et le sucre, M. Jacquemin offrit des liqueurs et des cigares. La soirée était d'une douceur exquise. Les parfums des roses, des résédas, des pétunias montaient des plates-bandes par bouffées. Les épais massifs de pins et de marronniers, disposés en ceinture autour du jardin, s'assombrissaient sous le ciel pâle. Dans le silence du soir, les dernières notes lointaines d'un merle vibraient sous le feuillage, et les murmures précipités et tristes des insectes cachés s'étendaient, comme les mille voix des plantes, sous les brumes légères qui couvrait la vallée. Le café pris, on se leva pour faire un tour dans le jardin. La fraîcheur augmentait. La nuit tombait rapidement. Marthe entraîna son fiancé dans une allée écartée et sa robe blanche se perdit bientôt dans l'obscurité des massifs.
Encore, encore, toujours, murmura M. Argentiol. Décidément, les amoureux sont intarissables dans leurs confidences.
Tais-toi donc, fit Mme Argentiol.
Mais grand Dieu, il ne leur restera plus rien à se dire quand ils seront mariés.
Comme tu as la mémoire courte, mon ami, reprit sa femme.
S'exclama M. Palia. Vous n'avez donc pas toujours été sceptique?
C'est si loin, hélas.
Voyez-vous, cher monsieur, dit Mme Palia, à votre âge, les hommes ne sont plus aptes à juger les choses de sentiment. Vous avez tous plus ou moins le cœur gâté par les affaires. Nous, femmes, nous oublions moins vite et comprenons mieux la jeunesse.
Peut-être. En tout cas, nous sommes dans notre rôle en nous absorbant dans les affaires, et c'est pour vous, mesdames, que nous nous immolons sur l'autel du travail.
Oh, vous êtes encore très régence quand vous vous y mettez. Ils continuèrent à plaisanter en poursuivant leur promenade autour de la pelouse. Au bout d'un instant, Marthe et son fiancé les rejoignirent. Johannes venait saluer ces dames et prendre congé. On essaya de le retenir encore. Mais il ne faisait pas de lune et, comme il insistait pour partir avant la nuit close, M. Jacquemin alla dire à la femme de chambre de faire seller le cheval de M. Clairin. Bientôt, le granger amena la bête sellée et bridée. On voulut accompagner le jeune homme jusqu'à la grille. Là, il salua ses dames, échangea des poignées de main, puis, mettant le pied à l'étrier, sauta légèrement en selle et ajusta ses rênes. Bijou, dans sa hâte de partir, essayait de se cabrer. Mais Johannes le contint, salua encore et rendit la main à sa monture impatiente, qui partit au grand trot dans le petit chemin bordé de peupliers, les fers sonnant clair sur les cailloux.